Et oui, c'est lundi. Bonsoir à toutes et à tous. On est ravis de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'entretien. Tous les soirs, par les temps qui courent, écoute les artistes pendant une heure. Ce soir, on est ravis de partager cette heure avec Madeleine Louarn et Jean-François Auguste.
Un tango, une danse, un baiser.
Et tu peux t'appeler, t'es
ça y est, puis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Donc, voilà, ça résume, quoi.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Par les temps qui courent,
Marie Richeux,
ramasser la peau de leur voix à l'ombre de leurs gestes.
Bonne nouvelle, le théâtre embauche. C'est l'affiche qui le dit. Un théâtre où chacun serait le bienvenu. Un théâtre à la formule trouble qui emploie tout le monde et met chacun à sa place. L'affiche est monumentale, déroulée au devant de la scène. Elle est regardée par tous, à commencer par nous, spectatrices et spectateurs. Karl, jeune homme loin de chez lui, y voit son destin et rejoint sans tarder celles et ceux qui, comme lui, rêvent de trouver leur place. Madeleine Louarn et Jean-François Auguste, c'est pour une grande part à partir de l'œuvre de Franz Kafka que vous dessinez différents personnages pour cette aventure du Grand Théâtre d'Oklahoma, des figures interprétées par les comédiens et comédiennes de l'atelier Catalyse, on y reviendra, et qui font apparaître des histoires, des questions, des espoirs, des corps, des oppressions, des émancipations, des dominations, des duperies, comme dans un géant théâtre d'ombre. C'est un spectacle rare et précieux, il se jouait tout récemment à la MC 93 de Bobigny, et on pourra le voir à la Ferme du Buisson, à Marne-la-Vallée, ce mercredi 13 février, ainsi qu'au Quartz de Brest, les 20 et 21 mars, ça c'est pour cette saison, et la saison prochaine, novembre 2019, Besançon et Reims, et Grenoble en mars. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue. Alors j'ai dit qu'on y reviendrait sur l'atelier Catalyse. Quelqu'un peut nous le présenter, cet atelier ?
Je vais laisser Madeleine commencer, parce que ça fait le plus longtemps que moi qu'elle travaille avec l'atelier Catalyse.
Oui, en fait, ça a démarré dans un ESAT, il y a plus de 30 ans, comme un atelier amateur de théâtre.
Et on va dire ESAT, c'est un établissement...
Social, d'aide par le travail. Je ne sais jamais si c'est sanitaire ou social, mais bon, bref. Ouais. Avant, ça s'appelait des CAT, des centres d'aide par le travail. Et moi, j'ai été éducatrice, donc j'ai commencé à faire du théâtre en amateur avec les hommes et les femmes qui résidaient dans cet établissement. Et donc, au fur et à mesure de l'histoire, du temps surtout, on a pris de l'ampleur. Et aujourd'hui, voilà, c'est une troupe professionnelle de 7 acteurs qui suivent toutes les tournées, toutes les créations qu'on fait. Bientôt 30 ans, oui.
Ce sont des hommes et des femmes qui ont participé au tout début de cet atelier ?
Certains, oui. Jean-Claude, qui est l'homme à la barbe blanche dans le spectacle, est là depuis le début, oui, tout à fait.
Et les autres ont rejoint l'aventure au fur et à mesure ?
Absolument, au fur et à mesure des départs. Et donc, au fur et à mesure, on a retrouvé de nouveaux compagnons de route. On a à chaque fois eu beaucoup de chance d'attirer à chaque fois de telles singularités, puisqu'ils sont tous très très différents, et avec une joie de vivre et une qualité de sympathie et d'attention qui sont vraiment formidables pour nous.
C'est des établissements qui aussi voient entrer et sortir des personnes, puisque ça participe parfois à des insertions dans le monde du travail et qui font qu'ils participent plus aux ateliers et ils repartent, ou généralement ils sont là et ils restent.
En général, 95% de ceux qui sont là restent. Je sais qu'il y a un gros souci, enfin, il y a de gros désirs de trouver des solutions qui permettent des circulations avec le monde dit normal. C'est pas toujours simple, mais je pense que effectivement la voie pour travailler sur ces circulations, elle est de plus en plus, disons qu'on la voit plus souvent maintenant. Mais ça n'empêche que notre travail avec eux donne justement peut-être un autre regard sur cette question du handicap mental et permet peut-être d'ouvrir des possibles. En tout cas, c'est notre souhait.
Mais juste pour compléter sur cet atelier de Catalyse, effectivement, il y a 7 places, donc c'est pas beaucoup. Effectivement, il faut que quelqu'un parte à la retraite ou décide d'arrêter le théâtre pour qu'on puisse accueillir des nouveaux acteurs ou des nouvelles actrices. Ceci dit, on demande quand même un engagement justement de la part des personnes en situation de handicap qui intègrent l'atelier Catalyse, puisque quand on fait une création comme par exemple celle-ci, c'est pratiquement un an et demi, voire deux ans pour la création. Et ensuite, il y a la tournée sur une ou deux saisons. Donc, c'est 4-5 ans d'engagement. On ne peut pas remplacer comme ça, au pied levé, un des acteurs de l'atelier. Surtout qu'on travaille quand même beaucoup avec leur singularité et leur particularité à chacun.
Oui, on y reviendra sur ce « en grande partie » à partir de l'œuvre de Franz Kafka, parce que évidemment, ce que montre ce spectacle-là, c'est une aventure d'hétérogénéité, mais à tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'on sent bien que c'est à la fois des êtres hétérogènes, des morceaux d'œuvres hétérogènes, des questions hétérogènes. Voilà, on se découvre encore plus ouvert à la diversité en soi-même qu'on le savait en entrant au théâtre. Eh bien, un extrait.
Ils roulèrent deux jours et deux nuits. Le premier jour, ils traversèrent une région de hautes montagnes. Des masses rocheuses d'un noir bleuâtre avançaient leurs crénelures pointues jusqu'au train. On se penchait par la fenêtre pour tenter en vain d'en apercevoir les sommets. D'étroites vallées, sombres et déchiquetées, s'ouvraient. On indiquait avec le doigt la direction où elles allaient se perdre. De larges torrents de montagnes surgissaient, pareils à de grosses vagues, sur un fond de colline, en charriant 1000 petites vagues d'écume. Ils se précipitaient sous les ponts que le train empruntait, et ils étaient si proches que leur souffle glacé faisait frissonner le visage.
Alors je parlais des sortes de figures qui apparaissent dans le grand théâtre d'Oklahoma, mais celui qu'on vient d'entendre n'apparaît pas exactement, ou en tout cas pas autrement que par sa voix. Quel statut vous lui donnez ?
Mais c'est le narrateur. Et il se trouve que c'est Rodolphe Burger avec qui on a fait le précédent spectacle, qui était autour de Louis II de Bavière, et il était sur scène avec les acteurs, et du coup, quand on a cherché une voix, on s'est dit, voilà, Rodolphe est notre compagnon depuis déjà, enfin, il nous suit depuis longtemps, donc c'était l'occasion d'avoir cette belle voix grave qui est une sorte de rappel amical d'être en même temps un peu présent avec nous tous les soirs.
Et puis, dans les textes qui accompagnent, les textes de travail qui accompagnent la présentation, vous parlez de la... C'est pour ça que je dis quelle place vous lui donnez, de la place particulière du narrateur chez Kafka. C'est peut-être la seule chose presque linéaire de ce spectacle-là, mais en même temps extrêmement mystérieux dans la phrase qu'on vient d'entendre. Bon, on a à peine des indications d'espace, on ne sait pas exactement où est-ce qu'il nous mène, qu'est-ce qu'il nous raconte. Ça vous servait à quoi, cette voix de Rodolphe Burger ?
En fait, c'est toujours pareil quand on est devant un texte qui n'est pas un texte de théâtre. Qu'est-ce qu'on restitue de l'expérience du lecteur au fond, et c'est vrai que le narrateur était une bonne façon de retrouver la présence de Kafka, qui, et puis certains textes sont donnés avec cette distance de quelqu'un qui décrit de l'extérieur presque quelque chose, donc c'était intéressant pour nous de garder cette origine du récit en fait. On voulait vraiment recoudre du Kafka sur chacun des acteurs, en fait. Et du coup, on a essayé avec cette voix de refaire un peu ce fil. Et puis, c'est aussi ce qui permettait d'insérer des réflexions qui sont non dites, qui sont à l'intérieur de la tête de Rosemann, par exemple, de Karl Rosemann.
Puis il y a aussi, on a beaucoup travaillé à partir d'un... d'un essai de Pascal Casanova qui s'appelle Kafka en colère et qui parle beaucoup du narrateur menteur. Et ça, ça nous intéressait beaucoup, notamment parce qu'elle explique que justement, dans les courants de littérature classique, en général, l'auteur, enfin le héros principal, le lecteur s'identifiait au personnage, au héros, et que Kafka venait justement, avec cette place de narrateur-menteur, réussir à faire que tout d'un coup, on s'éloigne de ce héros
et on met en...
pour voir la mécanique dans laquelle le héros évolue. Déjà, le narrateur, on ne sait pas s'il est avec Karl Rossmann, le héros, mais là, ce que vous venez de passer, c'est le dernier extrait du spectacle, la dernière voix qu'on entend. Et effectivement, ce qu'il dit ne présage pas forcément d'une fin très lumineuse.
Et même appelle pour nous des imaginaires et des faits historiques glaçants. Et d'un seul coup, au lieu d'un train qui pourrait partir vers le théâtre qui emploie tout le monde, ben on a les trains de déportation qui emmènent les Juifs vers les camps de concentration et d'extermination. Donc c'est en effet une voix qui, sinon est menteuse, elle est tout le temps étrange, quoi. Mmh. Elle nous dit jamais où nous sommes.
Ouais.
Et en vérité, en tant que spectatrice et spectateur, on ne sait pas où on est quand on arrive devant votre plateau, et peut-être encore moins quand petit à petit les comédiennes et les comédiens arrivent. Peut-être j'aimerais qu'on dise deux mots sur les costumes qui participent aussi de ce truc qui fait que vraiment on ne sait pas où on est, quoi.
Juste avant, pour rebondir sur ce que vous avez dit, effectivement, on pense forcément effectivement à l'extermination et à la déportation des Juifs. Il faut savoir que ce texte a été écrit entre le texte, puisque c'est l'adaptation du dernier chapitre d'América, qui est des fois traduit par Le Disparu comme titre, a été écrit entre 1911 et 1914. Donc on n'est pas les faits.
Je parle de mon imaginaire à moi.
Mais ce qui est incroyable, c'est que Kafka a écrit ça, parce que ça se termine vraiment comme ça. Et pour vous répondre à votre question sur les costumes, c'est Claire Raison qui a fait les costumes et qui travaille avec les acteurs de Catalyst depuis 10-12 ans, et qui du coup connaît très très bien les acteurs, les corps des acteurs, et du coup connaît aussi jusqu'aux matières qui vont correspondre au corps des acteurs, à leur mouvement, à leur façon dont ils ont de bouger.
Et la volonté de ne pas trop situer dans le temps. C'était important pour nous parce que je trouve que le texte de Kafka, on a ces images des hommes en noir, enfin voilà, forcément avec le petit chapeau que Tardy a montré, d'autres, voilà. Et on voulait s'éloigner des figures pour montrer un autre Kafka qui est beaucoup plus excentrique, en fait, qui a une fantaisie extrêmement importante et des inventions assez géniales. Et donc on voulait vraiment restituer aussi dans le corps des acteurs cette capacité imaginaire qui est très puissante chez lui.
Donc je le disais, on arrive, on est face à une grande affiche et puis on nous en parle de cette affiche. C'est une affiche qui fait rêver, c'est un théâtre qui... Alors je crois que c'est d'abord « Chacun est le bienvenu » et c'est plus tard qu'il y a cette formule trouble qui dit « Emploie tout le monde et mets chacun à sa place. »
Et d'ailleurs, il y a un mot qui revient très souvent dans le on peut utiliser tout le monde. Et c'est pas par hasard ce mot « utiliser ». C'est-à-dire qu'effectivement, on sent bien le mécanisme de suggestion, enfin, la manière dont on rend les êtres un petit peu instrumentalisés.
Vous avez lu Kafka, beaucoup, je crois. On va écouter Marthe Robert en 1972, fidèle traductrice et spécialiste de cet auteur.
Depuis toujours, depuis son enfance, Kafka avait le sentiment de n'être pas réellement au monde. Et par monde, il entendait non pas je ne sais quel monde mystérieux, je ne sais quel cosmos, mais bel et bien la société de son temps, la société où il devait vivre. Il n'était pas au monde, il ne savait pas vivre, il n'avait pas appris et il n'avait pas la clé. Ce sont des formules qu'on retrouve très très souvent chez lui et il s'exclame souvent dans son journal « N'être pas encore né et devoir déjà marcher, parler aux hommes ». N'est-ce pas ? Ce sentiment d'être en dehors, en deçà de la naissance, en deçà du monde, était chez lui tellement fortement enraciné qu'il lui a, il a l'impression que pour faire les choses les plus simples de la vie, justement, pour manger, pour se promener, pour parler aux gens, pour avoir des amis, il lui fallait faire un immense effort dont personne autour de lui ne pouvait avoir l'idée. Son journal, donc, c'est le témoin de l'effort qu'il fait pour essayer de s'installer dans la société des hommes, pour essayer d'être comme tout le monde, pour essayer de vivre normalement, en être, comme il dit souvent, n'est-ce pas, sain et utile. à ses propres yeux, il n'était ni sain, ni utile. Il se sentait au contraire morbide et inutile.
Marthe Robert, en 1972, qui parle du journal de Kafka comme une preuve de l'effort impossible à sentir de la part des autres, de l'effort de Franz Kafka pour être au monde. Quand on écoute Marthe Robert, on se dit, ok, les raisons sont évidentes de ce choix pour vous, qui avez travaillé pour cette création avec les comédiens de cet atelier qui sont, comme vous le disiez, en situation de handicap. Mais si on n'avait pas écouté Marthe Robert, qu'est-ce qui vous a mené vers cet auteur-là?
Au départ, c'est ce décalage. C'est je pense qu'il y a un trait qui lie beaucoup des spectacles qu'on a traversés. C'est cette relation à la réalité. La manière dont elle nous griffe, elle nous empêche, ou elle nous produit aussi, et l'émotion, et aussi des devenirs ou des possibles. Avec Kafka, ce qui était vraiment magnifique, c'était il dit souvent, je n'avais pas d'autre issue. Et ce pas d'autre issue, c'est-à-dire qu'on ne sait pas où est la sortie, mais on va y aller. On y va. On ne sait pas où, mais on y va. Et je pense que cette capacité à vivre, parce que malgré tout, c'est une vraie capacité à vivre, et qu'on retrouve d'ailleurs dans l'humour qui le produit partout, c'est une des choses importantes pour les hommes et les femmes qui sont en situation de handicap. C'est-à-dire que, voilà, demain, quel sera-t-il ? Le monde est encore à faire, quoi. Et ils ont effectivement une place qui n'est pas donnée. Qui n'est pas de toute évidence. Donc, il y a des corrélations dans la perception aussi qu'a Kafka de la réalité, de percevoir ces choses qui parfois nous paraissent normales, alors que il va déceler à l'intérieur de ça l'anomalie justement, ce qui ne va pas bien droit. Et ça nous est très utile, nous, d'avoir des gens qui nous montre que le monde n'est pas droit et qu'il y a plein de d'endroits de où on peut tomber, où on peut aussi changer de route, dévier.
Il y avait aussi la question de la honte.
Oui,
faute et la honte, qui pour les acteurs de Catalyse ont assimilé une honte. Et une faute, alors que je dis ça parce que je me souviens qu'une fois dans une rencontre, c'était à Sylvain, je crois,
Des enfants de
l'un des comédiens.
Oui, l'un des comédiens.
Et c'était des enfants de 11 ans et 11 ans, je crois, et dans un petit village près de chez nous. Et ils avaient rencontré les acteurs et ils leur avaient demandé ça vous fait pas bizarre des fois comment les gens vous regardent? Et Sylvain avait dit bah oui, mais c'est pas notre faute. Et cette sensation qu'il porte une faute quand même, c'est très, 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 je pense, leur en renvoyer tout le temps. Et du coup, c'est assez émouvant d'être porteur comme ça de ce qui a raté et d'en être au fond, même s'ils ne sont pas responsables, mais ils sont stigmatisés là-dessus. Donc, c'était important pour nous de pouvoir parler de ça. Disons qu'ils puissent porter cette voix-là et que, voilà, Kafka nous est un magnifique traducteur de ces questions.
D'autant que c'est une culpabilité, une honte et une faute qui conjugue en fait toujours au pluriel, c'est-à-dire qu'elle est à la fois celle de la condition humaine, elle est celle de sa condition d'homme juif qui émigre, elle est celle des négros, je le cite, hommes noirs, parce que au moment où Karl doit dire son identité, il hésite à dire son nom. Et on le comprend parce qu'il est juif.
Oui, bien sûr.
Et au moment où il doit choisir autre chose, il dit négro et tout le monde est arrêté comme ça en disant mais non, c'est pas possible, ce type ne s'appelle pas négro. Et donc à chaque fois, Kafka n'oublie pas de dire qu'il n'y a pas qu'une seule faute ou qu'une seule culpabilité. Mais pour continuer sur ce choix de texte, Jean-François Auguste et Madeleine Loire, ça veut dire que dans les choix de texte que vous faites pour travailler avec les comédiens et comédiennes de Catalyse, il faut que ça parle d'eux? C'est une des conditions?
Non. C'est juste que nous, on les voit dedans. Enfin, moi, c'est ce que je les imagine, faire ça. Non. Là, il y a des corrélations, mais c'était un matériau tellement formidable.
Vous allez d'abord vers Kafka, parce que c'est Kafka.
Oui, on essaye de voir comment cette langue il la porte. Et en fait, c'était notre première inquiétude, parce que comme lecteur, ça demande un vrai travail au lecteur de rentrer dans la langue de Kafka. Du coup, on s'est demandé si ça n'allait pas être un peu obscur pour les acteurs de le dire. Et en fait, on a fait un essai avant et c'était d'une clarté. On s'est dit, bon, voilà, c'est une langue pour eux. Et donc, du coup, il n'y a pas eu d'hésitation. Après, le parcours qu'on a fait pour choisir le fil conducteur, je pense qu'en fait, ça s'est beaucoup politisé après. Parce que Pascal Casanova nous a montré, parce qu'on avait choisi des textes et il se trouvait que c'était les mêmes textes qu'elle a repris dans Kafka en colère.
Et c'est pas que américain.
Non. Elle parle aussi de Joséphine, la cantatrice. Elle parle de Recherche d'un chien. Elle parle d'une grande partie des textes qu'on a choisis, qui sont des extraits de Le singe, le rapport pour une académie, etc. Et du coup, cette vision bourdieusienne de Kafka était pour nous assez nouvelle, en fait. J'avoue, on a souvent la vision d'un homme écrasé par une société qui le maltraite. Mais en fait, dans beaucoup de textes, c'est des questions beaucoup plus complexes et plus diverses aussi. Même si c'est toujours un peu récurrent, cette question de la faute. Et du coup, la domination par certains des immigrés, par exemple, et la façon de les rabaisser systématiquement pour pouvoir mieux les utiliser, entre guillemets, est une chose qui a vraiment été perçu par Kafka très vivement. Et je trouve qu'il y a effectivement, dans sa colère, parce que je crois effectivement qu'il y avait une révolte en lui, contre cette société, et était très, très juste à garder comme fil conducteur. En fait, on a déplacé l'histoire de la culpabilité pour aller plus sur cette question de cette domination et de cette place qu'on nous accorde ou pas, d'ailleurs. Donc, c'est un peu plus vers là qu'on est allé.
Car faute de comédienne, musicienne, danseuse, ils vont se retrouver.
Alors ça c'est nous qui avons inventé ça.
Agent technique.
Agent technique, soutier, liftier.
Lingère.
Sur ce, vous vouliez peut-être ajouter quelque chose, Jean-François Auguste, sur le choix de Kafka, parce que vous disiez, bon, quand même, en même temps, cette résonance-là était essentielle.
Bah, c'est-à-dire que... Par exemple, on avait fait une autre commise en scène qui était une adaptation d'Alice au Pays des Merveilles. Et c'est vrai que quand même, je pense que quand je choisis quand même des textes en fonction des acteurs de Catalyse. Par exemple, pour moi, Alice, ce qui m'intéressait, c'était justement...
Chez Lewis Carroll,
de travailler sur le non-sens et qu'eux n'allaient pas jouer le non-sens, mais... L'incarner. Et du coup, c'était beaucoup plus fort que n'importe quel acteur dit handicapé normal, on va dire, qui aurait interprété du non-sens. Eux, ils se posaient pas cette question-là. Donc, je trouvais que ça. Et là, sur le Kafka, je pense qu'on est allé vers Kafka parce que c'est les acteurs de Catalyse aussi. Enfin, je sais pas comment.
Ah, mélange des deux.
Oui.
Mais de toute façon, les textes sont, c'est parce qu'on les voit. On les voit quand on lit le texte et on les voit dedans. C'est pour ça que le déclenchement se fait. Ils sont vraiment les premiers leviers de l'inspiration.
Je compas. Personne ne le sait. Il y en a qui s'en doutent. On peut pas l'éviter. Mais personne ne le sait. Je m'acquitte de mes devoirs quotidiens. On peut me reprocher d'être distrait. Mais très peu. Bien sûr, tout le monde combat, mais je combats plus que d'autres. La plupart des hommes combattent comme dormant, comme remue la main dans un rêve pour chasser un fantôme. Mais moi, je suis sorti du rang de la foule. Pourquoi ai-je attiré l'attention sur moi? Je ne sais pas. Une autre vie ne me paraissait pas digne d'être vécue. Je n'espère pas la victoire. Et ce n'est pas le combat en tant que tel qui me réjouit. Je me réjouis uniquement parce que c'est la seule chose à faire, et peut-être périrai-je, non pas au combat, mais à cause de cette joie.
France Culture.
Par les temps qui courent.
Marie Richeux avec Madeleine Louarne
et Jean-François Auguste.
Voilà, peut-être qu'on entend Kafka comme jamais. C'est un extrait du Grand Théâtre d'Oklahoma. Parmi ses prétendants à être employés dans ce grand théâtre merveilleux, eh bien, il y a cet homme qui se lève et parle. Et en fait, ils ont tous comme ça une sorte de moment où on les voit se révéler à nous dans une plus grande singularité, dans une plus grande intimité, comme si ils nous prenaient à part. De quoi sont composés ces monologues ?
Alors celui-là, il est pris par, il est pris dans le journal, je crois. Mais en fait, il est incarné par Jean-Claude, donc qui est le plus ancien des acteurs et qui aussi représente l'artiste de la fin, qui est une nouvelle assez fameuse et profondément tragique de ces artistes dont on ne veut plus parce que en fait, ça n'intéresse plus personne et finit abandonné dans une cage, dans un cirque, et en fait, en vrai, l'artiste meurt comme voilà, il comme s'il se fond dans la paille dans laquelle il est, et on l'oublie, et donc il meurt de faim. Et c'est évidemment une magnifique parabole sur la question de la nécessité ou pas des artistes dans une société. Mais Jean-Claude est, donc reprend un autre passage de. On lui a redonné un passage de Recherche d'un chien qui où il parle justement de cette révolte d'être abandonné. Et en même temps, au fond, il se dit, mais c'est sans doute moi qui me suis abandonné moi-même. Et donc, voilà, ce texte était assez magnifique. C'est le dernier texte de Kafka qui s'appelle Recherche d'un chien. Mmh. Et il est particulièrement émouvant.
Et tous ces moments où vous dites que les acteurs, justement, se lèvent et ont comme ça, tout d'un coup, nous, on avait appelé ça, je crois, dans l'adaptation, les intermèdes, ou je sais plus comment on avait appelé ça.
Non, on n'avait pas appelé ça.
C'était pas ça. Bon, bref.
Ils forment comme une sorte de masse collective en attente.
Oui.
Que quelqu'un leur dise oui ou non, vous entrez, quoi.
Mmh.
Et ces moments-là où ils sortent du rang, pour prendre les mots de Kafka, c'est tellement une notion hyper importante pour lui, en fait. Sortir du rang des assassins, c'est vraiment un truc de faire un pas de côté. Oui, c'est peut-être plus que des intermèdes.
Oui, mais je vais pas me souvenir du nom parce qu'on n'avait pas mis ça, effectivement. Non, c'était effectivement des jaillissements.
Voilà. Jaillissements, oui.
Jaillissements. Donc, jaillissement 1, 2, 3. Et du coup, c'était un peu ce que vous dites. C'est-à-dire, tout d'un coup, on voulait qu'il y ait une parole qui jaillisse, qui se mettent comme en suspension, dans un temps arrêté, et puis hop, on retourne dans la narration, mais effectivement, alors on s'est arrangé pour les intégrer dans la dramaturgie et dans la narration, mais c'était effectivement cette volonté, tout d'un coup, d'avoir comme un gros plan, une parole nécessaire qui arrive à... Et tous ces textes-là, pratiquement, sont des textes de fin de vie de Kafka.
Oui.
C'est pas du tout les...
Est-ce que vous pouvez nous raconter la rencontre, par exemple, entre un comédien comme Jean-Claude Pouliquen et ce texte-là ? Comment ça se passe ?
Alors en plus, je pense qu'avec Jean-Claude, c'est le plus magique, je pense, sur ce genre de rencontre. Jean-Claude, on peut le dire, ils ne savent pas tous lire et écrire. Jean-Claude ne sait pas lire, comme quoi on voit aussi que... parce que les plus jeunes, pour la plupart là, des acteurs, savent lire et écrire. Jean-Claude, qui est le plus âgé, qui a passé la cinquantaine, on voit du coup comment le handicap n'est plus pris en charge de la même façon maintenant, parce que Jean-Claude est quelqu'un qui, s'il était né là dans les années 90, saurait lire et écrire absolument, parce qu'il adore les mots.
Il adore l'écrit,
il est fasciné, il demande tout le temps, là c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a d'écrit, là c'est quel mot. Et donc il faut lui faire apprendre le texte. Et après, Jean-Claude, il a...
Est-ce que vous en discutez avant de lui faire apprendre le texte ?
Oui. Quand on travaille avec les acteurs, on demande... D'abord, on leur dit, bon, alors, qu'est-ce que vous avez compris ? Alors, des fois, c'est très, très drôle, parce que je sais plus, j'aurais pas un exemple. Peut-être qu'on avait parlé un jour de la culpabilité, justement, qu'est-ce que c'était ? Et on a eu des réponses assez drôles, je ne veux pas me souvenir tout de suite comme ça. Mais du coup, oui, on parle avec eux du sens du texte, qu'est-ce que ça raconte. Et puis après, on voit comment eux le restituent. D'abord, on leur demande, qu'est-ce que toi ça te raconte, du coup, avec ce qu'on vient d'expliquer, comment est-ce que tu aurais envie de le dire, comment est-ce que tu aurais envie de le faire. Et puis on fait des essais... très concret sur le plateau.
Voilà, j'ai beaucoup d'indications de la manière dont on peut l'énoncer, c'est-à-dire, par exemple, Je combat, on l'a beaucoup travaillé sur le chuchotement. Mais maintenant...
Ce qui n'est pas du tout le cas de son deuxième monologue.
Non, Et le deuxième monologue, on l'a beaucoup travaillé de différentes façons. Avant, au départ aussi, de façon très comme un peu une ombre qui circulait. Et vraiment, après, c'est aussi comment ça s'agence dans l'ensemble. Et du coup, on choisit des directions avec eux pour l'énonciation, la manière dont ils incarnent ou ils disent le texte. Donc, évidemment, c'est pas des raisons. On donne pas des raisons psychologiques entre guillemets parce que si ça marchait on le ferait, mais c'est plutôt des manières d'habiter le texte en fait, je sais pas comment le dire. C'est presque physique des fois, donc c'est souvent physique d'ailleurs, donc on avance comme ça pas à pas avec Jean-Claude, comme il a un bégaiement interne très fort qui se dévoile par moment, son inquiétude, surtout quand il y a un mot qu'il sait qu'il va dire, la plubicité par exemple. Donc il l'appréhende et donc on a le droit à des moments de suspension assez étonnants par moment.
Il y a un de ces jaillissements dont on sent que ce n'est pas du Kafka. C'est une des femmes qui prend la parole. Et je dis on le sent, mais en même temps, ça pourrait être plus inquiet que ça, comme manière d'écouter. Ça pourrait aussi éventuellement se rattacher à tous ces textes qu'on entend. Pourquoi celui-ci ?
En fait, on leur avait lu le journal de Kafka et on leur a demandé de tenir un journal aussi. On leur a demandé de... C'est une des premières fois qu'on le fait. Et on a demandé d'avoir un journal où ils écrivent sur le travail de Kafka et un journal plus intime où ils écrivent ce qu'ils veulent, dans ce qu'ils vivent, enfin un journal intime. Et Christelle a écrit ce texte. Donc c'est Christelle Poder qui joue Joséphine, qui est effectivement « Je remercie la vie de m'avoir donné les réponses à toutes les questions que je me posais, je remercie la vie de jouer devant le public. » Et on lui a demandé si elle avait envie de le dire sur scène, et elle a dit oui, et on s'est dit « Ok, on va le mettre. » Et
la liste de la nourriture, c'était une de ses obsessions. Voilà. Et dans son journal, on a droit à des descriptions détaillées de chaque moment. On s'est dit que ça, pour un toast, ce qui n'en finissait pas, c'était pas mal. Et en fait, on avait comme peut-être projet qu'on n'a pas intégré dans le spectacle, sauf cela, de voir si dans les journaux qu'ils écrivaient, quelque chose de leur réalité, leur vie, ou de la manière dont ils en parlent, pouvait faire écho aux questions poser Kafka. Et en fait, il n'en est resté que ce moment-là. En fait, on n'a pas poussé la chose plus loin. D'abord parce que c'était déjà pour nous un tour de force d'avoir réussi à donner un ensemble à cette hétérogénéité de texte et de garder une structure qui soit dramatique, utile au théâtre, quoi. Donc avec des ressorts, des accélérations, des temps de suspens, enfin tout ce qui construit la grammaire théâtrale. Et c'est vrai que du coup on a assez vite abandonné la possibilité pour eux d'intervenir sur des textes, sur leurs propres textes, en fait.
Peut-être parce que ça va. Peut-être parce que Kafka dit déjà beaucoup de choses, peut-être de leur propre vie, je sais pas, par exemple, de ce qu'il dit de la vie en collectivité, de la société, des mises à l'écart, de personnes qui régissent notre rythme de vie ou les choix qu'on fait. On imagine que ça vaut pour nous et ça vaut peut-être encore plus pour des personnes qui ont pas toute l'autonomie toujours pour vivre leur propre vie ou la vie qu'ils ont choisie.
En fait, ce qui nous intéressait dans le geste où c'était eux qui parlent, c'était aussi de montrer leur propre endroit de travail. Comment est-ce qu'ils déplacent et comment leur poétique aussi vient se nicher dans tous ces instants. Et parce qu'il y a une vraie élaboration du geste. Et du coup, c'était important aussi de restituer l'intégrité complète des personnes à travers parce que, évidemment, pendant des années, on a toujours tous entendu que, comme ils n'ont, entre guillemets, censément pas la capacité de jugement ni de choix, ils sont entre guillemets aussi instrumentalisés pour le coup et marionnettisés et en leur refusant en fait le geste exactement le geste de l'acteur et ça c'est, pour nous ça c'est vrai que c'est notre révolte en fait je pense c'est l'endroit moi en tout cas qui me met en vraiment en rage c'est de ne pas les considérer comme des personnes à part entière et des êtres de, doués de la grâce et de l'inspiration que les artistes peuvent avoir.
Et des acteurs surtout, enfin, parce que ils doivent quand même refaire, enfin, le principe du théâtre, c'est de refaire ce qu'on a répété. Et ils le font tous les jours, donc ils ont bien conscience du geste qu'ils sont en train de faire.
Et j'ai l'impression, pas du tout sans esprit critique. Non, enfin, moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un esprit critique qui s'exerce sur chacune des tirades.
Et moi, je dis toujours que, justement, c'est un peu... que, par exemple, avec les acteurs de Catalyst, si on veut leur faire faire quelque chose qu'ils ne veulent pas faire, c'est impossible. On ne peut pas leur faire faire. Et pour reprendre juste sur les costumes aussi, c'était ça aussi, c'était de montrer la métamorphose. Comment on pouvait mettre en lumière justement leur singularité corporelle et leur façon de se déplacer, et on voit bien si les gens restent après le spectacle, dans la vie c'est plus du tout les mêmes, donc on voit bien que il y a cette métamorphose là au moment de jouer où le corps se transforme, l'attitude,
les voix,
donc il y a bien un geste et une conscience du geste qui se fait pour eux au plateau.
Et s'il y avait éventuellement un trou de mémoire, eh bien, il y a un souffleur et vous avez intégré justement cette espèce de soutien, possible soutien en tout cas, à la mise en scène. Mais avant d'en parler, on va écouter Ludmilla Holtz en 1980, qui était souffleuse. Elle disait régisseuse souffleuse à la Comédie Française.
Il faut bien sentir le théâtre, il faut sentir les comédiens, il faut quand même pouvoir... avoir assisté à toutes les répétitions pour connaître tous les rythmes, tous les temps de la pièce, être très disponible, savoir regarder, écouter et surtout sentir les comédiens, parce qu'un petit trou de mémoire peut se laisser deviner quelquefois une fraction de seconde avant, même peut-être le comédien ne sait pas encore qu'il va avoir un trou de mémoire, et si vous êtes très attentif, vous pouvez le pressentir, mais c'est assez difficile. Très souvent, quand un comédien va avoir un petit problème, ce problème existe déjà en lui quelques secondes avant et brusquement le rythme habituel de sa phrase se transforme et alors là vous êtes aux aguets, vous dites ça y est, il va se passer quelque chose. Alors vous surveillez, vous êtes aux aguets et puis hop, si vous pouvez, vous envoyez le texte.
Il faut bien sentir le théâtre pour être une bonne régisseuse souffleuse, dit Ludmilla Holtz en 1980. Jean-François Auguste et Madeleine Loirne, vous faites le choix que ce souffleur soit sur scène, casqué, en beauté, et qu'il ne souffle pas, mais qu'il ait un porte-voix, c'est comme ça qu'on dit ?
Oui, un haut-parleur, un mégaphone,
c'est clair,
un tout petit mégaphone.
S'il y a besoin, il y a du texte en réserve, et pas que, parce qu'il y a aussi des petits moments de texte qui sont soulignés d'une manière humoristique et qui font que ce n'est pas que le souffleur. Comment est arrivé ce choix-là ?
En fait, le souffleur a toujours été, avec Catalyse, a toujours été là. Moi, je trouve que c'est un geste magnifique, le souffleur. Je trouve que c'est l'essence même théâtrale. On y voit toutes les voix qui ont déjà tous les Hamlets qui ont déjà été joués, et on voit la répétition en même temps que la représentation. C'est-à-dire qu'on voit tout d'un coup le travail qu'il a fallu faire, mais dans une fraction de seconde, tout est concentré. Et je trouve ce geste magnifique parce que ça redit aussi cette phrase de Manoni qui est vraiment toujours très intéressante, d'Octave Manoni, qui dit, je sais bien, mais quand même, je sais bien que c'est faux, mais quand même, c'est tellement vrai. et c'est cette croyance et ce fait d'y croire, le souffleur le redit, on peut tout à fait voir l'artifice et adhérer totalement à ce qui vient de se passer sur le plateau. Et donc, cette grammaire du théâtre, elle est vraiment essentielle et je trouve vraiment délicieux pour moi de voir un spectacle avec des souffleurs à chaque fois.
Mais en plus, dans l'histoire du théâtre, on voit bien que le souffleur, là c'était 1980, il y avait encore des souffleurs et des souffleuses. Donc, voilà, c'est de moins en moins quand même, mais on voit bien que ça a toujours existé. Donc justement dans Alice au Pays des Merveilles, on avait mis un petit lapin blanc souffleur qui était un peu partout sur le plateau. Et là, donc c'est moi qui suis avec eux sur le plateau, et je suis tellement d'accord avec ce qu'elle dit sur.
On peut sentir que ça arrive.
On sait que ça va arriver.
Il va s'égarer ou pas.
Et effectivement, on le sent juste au rythme de la phrase d'avant où on se dit, oula, pourquoi tout d'un coup il a changé le rythme? Pourquoi il a telle inflexion? Pourquoi il a telle. Et on sent qu'il va y avoir un trébuchement. Je trouve ça vraiment très très juste. Après, c'est vraiment, pour moi, c'est aussi un placebo pour les acteurs. C'est-à-dire que, du coup, comme ils sont délivrés de la mémoire du texte, ils peuvent jouer. Et ils ne sont plus que dans mon Dieu, il faut que je dise bien le texte que je dois dire. Donc là, ils peuvent jouer. Ils savent que je suis là s'il y a un problème.
C'est une petite main tendue quand on surfe. C'est une petite main tendue pour éviter qu'on la chute ait lieu et que tout continue. C'est, je trouve que c'est un très joli geste en fait aussi de soutien, qui est un petit appui quoi. À un moment donné, quand il y a besoin, voilà.
Il y en a un autre dont on ne sait pas s'il est nécessaire ou mis en scène, mais qui est sublime. C'est au deuxième monologue de Jean-Claude Pouliquen, vous le tenez par la ceinture, parce que justement, il est dans une énergie qui n'est pas exactement celle du premier, où il projette beaucoup, son pied tape plusieurs fois, il est dans la révolte. Et donc, vous avez un geste comme ça, où vous le tenez par la ceinture, pour que quoi ?
Est-ce qu'il faut tout dévoiler ?
Vous n'êtes pas obligé, hein. Nous, en tout cas, c'est un geste qu'on reçoit de plein de manières différentes.
J'ai un rapport très particulier avec chacun des acteurs au plateau qui n'est. Alors Jean-Claude est celui. Je suis le placebo par excellence avec Jean-Claude. C'est-à-dire que vraiment, le fait juste que je sois là à côté, c'est bon. Si j'étais 2 mètres plus loin, ce serait plus difficile. Et là, juste, effectivement, je pense que moi, je me rends pas compte que je suis pas dans la salle, mais je pense qu'on peut interpréter ce geste de différentes façons. Je vais vous donner une raison très naïve et très bête, mais c'est que il peut des fois sortir de la lumière parce qu'il est tellement en puissance et en énergie que déjà, moi, je suis là pour lui dire reste dans la lumière. Et après, il y a des histoires de tempo que je peux lui donner derrière, puisque sinon, il s'emballe dans sa colère, parce qu'à ce moment-là, on a travaillé sur la colère, et du coup, il peut s'emballer dedans, et du coup, moi, juste, en lui donnant des petits tempos dans le dos, il peut canaliser et savoir qu'il faut pas qu'il aille trop vite. Mais c'est vraiment, avec chacun, je travaille pas du tout de la même façon au plateau. Il y en a, ils vont me regarder de loin, et je sais que ça veut dire qu'il y a un problème. Enfin, c'est très, très différent.
Il y en a qui peuvent, par exemple, moi, l'après-midi où je l'ai vu, vous poser vraiment une petite question, extrêmement discrète, mais sur qu'est-ce qui va se passer. Et en fait, la magie, c'est aussi qu'il est question de spectacle dans le grand théâtre d'Oklahoma, qu'il est aussi question de théâtre, et que vous êtes en fait aussi tous ensemble en train de nous parler de ce que c'est que de faire un spectacle, que de faire du théâtre. J'imagine que c'était l'occasion pour vous de rediscuter avec elle et avec eux de ce que c'est que de faire du théâtre. Ça donne lieu à quoi comme échange? Qu'est-ce qu'ils disent de ce que c'est que de faire du théâtre? S'ils le disent.
Si,
je peux pas croire que vous parlez jamais de ce que c'est que de faire les comédiens.
Si. Non mais c'est des grandes questions parce que c'est des grandes questions juste avec, par exemple, Tristan Quentin qui joue Rougeau, c'est une grande question. Qu'est-ce que le jeu? Qu'est-ce que être acteur? Quelle est la c'est quoi la différence justement? Que le théâtre, c'est pas la vie, c'est encore autre chose, donc on peut pas être comme dans la vie. Donc, et ça, par exemple, avec Tristan, c'est des choses dont on parle beaucoup pour essayer justement qu'il ait conscience de son geste et qu'il puisse retrouver ce qu'il a fait. Parce que des fois, il fait des choses magnifiques en répétition, et du coup, faut l'aider à retrouver son chemin. Et en fait, c'est toujours ça, des questions de chemin. Mais juste ça me fait penser, ça c'est pas vraiment ça, je vais pas exactement répondre à votre question, mais quand on a joué au TNB à Rennes en octobre, il y avait une dame justement qui disait mais quand même c'est incroyable, vous avez fait le festival d'Avignon In et tout, et quand même vous pouvez nous dire qu'est-ce qu'il y a de différent quand vous jouez au festival d'Avignon In? Et la réponse de Jean-Claude, ça a été la salle et la couleur des sièges.
Non, c'est le public. Hein. Franchement, pour eux, le fait d'être vu est un effet pour eux qui sont si peu regardés, d'être pouvoir être comme ça sous la lumière. Je pense que c'est un révélateur de quelque chose, d'une intensité inédite pour eux.
Sauf que pas n'importe quelle lumière, Madeleine Warne et Jean-François Auguste. Sauf que c'est pas un mécanisme qui est, comment on pourrait dire, évident. C'est pas parce qu'on met des gens pas regardés d'un seul coup sur la lumière que quelque chose de bien se passe.
Mais bien sûr.
Voire quelque chose d'horrible peut se passer.
Oui, mais complètement. Et on en a vu. On en a vu. Et on en verra encore, je pense. Non, bien sûr. Le but étant que l'ensemble de ce qui compose la grammaire théâtrale soit le plus déployé avec j'allais dire, la plus grande exigence d'une part et la plus grande ambition. franchement, c'est l'idée de marquer le cœur, de déplacer les gens, de laisser des souvenirs impérissables et de faire entendre des choses qu'on n'avait jusque-là jamais entendues. Enfin, c'est vraiment, je crois qu'ils sont, ils peuvent être porteurs de quelque chose qui peut marquer l'histoire de l'art théâtral, j'espère. Et c'est vraiment à cet endroit-là qu'on travaille. Et c'est vrai que c'est un travail. En aucun cas, c'est quelque chose qui vous tombe dessus. Et par une grâce du Saint-Esprit, c'est vraiment un labeur, mais qui peut être passionnant, joyeux et parfois très difficile.
D'ailleurs, je me souviens que dans le tout début de la pièce, c'est quelque chose qui est dit, je crois, chacun a le droit d'être rémunéré pour son travail, quelque chose comme ça,
oui, d'accord.
Ça. Et que d'emblée, évidemment, c'est une question qui est tout de suite, on l'entend prise dans la fiction, mais on l'entend aussi de, on voit des comédiens au travail, ils sont payés.
Bien sûr.
Un rôle, c'est aussi, c'est pas seulement une partition individuelle. C'est aussi savoir entendre la musique de l'ensemble. Et il faut entendre la musique commune. Oui, en effet, le metteur en scène, il détermine beaucoup de choses. Et en premier lieu, le type de relation que les gens ont entre eux. C'est très important. Construire un rôle, pour moi, je veux dire, construire un rôle, ça inclut aussi... comment être dans une équipe, face à un metteur en scène, face à ses partenaires, face au public aussi. Ça demande à chaque fois de construire un nouveau moule. C'est comme un vase. Pour mettre quelque chose dedans, il faut inventer la forme. Donc ça se fait petit à petit, jour après jour, en s'adaptant, oui, en s'adaptant.
C'est une archive de Valérie Dréville, toute récente, au micro de Joël Gaillot en 2018. Le spectacle comme un moule, et quand elle décrit le travail de la metteuse en scène ou du metteur en scène, elle dit « c'est un travail d'invention sur le type de relation qui existe entre les gens ». C'est vraiment de la politique, quoi. C'est un moule pour inventer des nouvelles ou des possibles relations entre les gens. Comment est-ce que vous décririez, vous, ce travail avec Catalyse, ou pour ce théâtre d'ailleurs, est-ce que vous diriez ça? Vous diriez que l'un des premiers boulots que vous faites, après peut-être celui sur le texte, c'est quel type de relation existe entre les gens?
Alors, la différence, c'est que Catalyse, ils se connaissent très très bien depuis longtemps, et ils habitent au même endroit, et donc il y a une communauté déjà de travail. Par contre, la manière dont les relations s'inscrivent au travail, c'est devenu quelque chose d'extrêmement important. Une grande attention les uns aux autres, et je pense on est aussi très très attentif à ce que, pour le coup, chacun ait sa place. C'est-à-dire que...
Et pas chacun soit mis à sa place.
Non, c'est ça. Et c'est que, vraiment, ils ont une singularité qui doit être mise en valeur à chacun. Et donc, il n'y a pas de hiérarchie du premier grand rôle et du grand acteur, et puis des autres qui seraient moins bien servis, etc. Parce que ça, c'est... Même si certains... du coup sont forcément n'ont pas forcément la même durée, c'est pas, vous voyez ce que je veux dire, ils ont, on peut être muet sur un plateau et être là et avoir une importance, mais du coup cette façon de travailler est très importante pour nous. Et de la même manière, comment en tournée, comment avec le public, comment tout ça se doit être très généreux et remercier à chaque fois la chance d'être accueilli dans les endroits où on peut jouer, la chance que les gens viennent nous voir, tout ça, c'est vraiment très important, oui, parce que un spectacle sans spectateur n'a pas de sens.
Vous parliez plusieurs fois d'échanges avec des spectatrices ou des spectateurs, c'est quelque chose que vous mettez en place régulièrement?
Quand les théâtres le souhaitent, c'est vraiment, ils adorent, enfin, je crois qu'on a tous, envie de ces moments-là. D'ailleurs, je pense que bientôt, le plus souvent, ce sera intéressant aussi qu'ils prennent la parole sur leur propre travail et qu'ils puissent transmettre et redire par comment ils perçoivent les choses.
On l'a fait à Avignon,
oui.
Ouais, il y a eu une rencontre. Mais ce qui est assez intéressant en même temps là-dedans, c'est que nous, on les pousse plutôt vraiment à prendre la parole, mais ils sont tellement... eux, ils ont tellement intégré la faute, encore une fois, ou qu'ils vont dire des bêtises, ou tout ça, alors que pas du tout. C'est des êtres qui sont absolument, qui ont une vivacité de pensée et des éclats comme ça d'intelligence. Du coup, ils ont vraiment beaucoup de difficultés à prendre la parole. Il faut vraiment les mettre en confiance pour qu'ils puissent prendre la parole en public.
Dans ces rencontres-là, il est autant question de Kafka que de leur situation de handicap ? Ou ça prend le pas ?
Non. Non, ça prend pas le pas en général. Mais c'est vrai qu'il y a souvent des spectateurs qui demandent, mais qui vont demander à Madeleine ou moi, ou Erwana Prigent, dont on n'a pas parlé, qui est leur animatrice éducatrice, qui justement travaille vraiment à faire un groupe aussi, elle, au quotidien. Dans ces cas-là, on dit, demandez-leur à eux. Et là, du coup, ça s'inverse un peu, et ils peuvent répondre. Mais ça arrive quand même qu'effectivement, la question du handicap prenne le pas sur la question artistique.
Très souvent, malgré tout. C'est vrai que c'est une conquête pour nous quand on parle de la pièce et pas uniquement de ce qui est leur particularité.
S'il y a quelque chose interdit, c'est très intéressant. Ça commence à être très intéressant. C'est-à-dire, il y a quelque chose où on peut vraiment... Comment a commencé à créer quelque chose de tout à fait nouveau, tout à fait nouveau. Et si un monsieur en Pologne m'a dit « Oui, mais tu es contre le constructivisme. » Oui, tu es contre le constructivisme. Et constructivisme est l'art abstrait, et l'art conceptuel, et l'art tel à tel... c'est intellectuel, c'est l'art de notre époque et tu ne peux pas créer contre. Alors je commence à se comporter comme pendant les périodes staliniennes. Oui. Et je dis tu es staliniste. Ah oui. C'est-à-dire je commence à se comporter peut-être un peu comme les fous. Je ne sais pas quelles conséquences seront dans mon art, peut-être je serai tout à fait oublié, mais je commence à avoir beaucoup de plaisir à faire quelque chose contre la vogue de cette très médiocre intellectualisme très médiocre, parce que vraiment les artistes qui se croient intellectuels, et je les connais par exemple en Pologne beaucoup, je les crois comme les imbéciles. Oui, ce sont les imbéciles, ce sont analphabètes. Ce ne sont pas des intellectuels, ils ne peuvent pas créer l'art intellectuel. Ils ne peuvent pas créer l'art intellectuel, c'est pas vrai. Alors je suis contre l'intellect. Oui. Non, vous savez, c'est très dangereux parce que tout de suite, beaucoup des imbéciles vous prennent. Oui, naturellement, vous êtes avec nous. Oui. Ah non. Non, c'est très dangereux, vous savez. C'est pour ça qu'il y a la situation dans l'art aujourd'hui très, très équivoque et très... très délicate. Parce que on ne peut pas être contre l'intellect. Parce que nous savons quelles conséquences sont de cette position. Mais on ne peut pas être donner l'intellect pour, comme étendard pour la médiocrité. Oui. Parce que c'est faux et c'est très dangereux, c'est très dangereux.
Tadeusz Kantor qui retrouve son sérieux en fin d'archive. On n'a pas réussi à la dater, cette archivina, mais bon, elle est avant sa mort, avant 1990, qui retrouve son sérieux après avoir fait un peu comme ça le show et en disant non, il faut être très très clair parce qu'on peut arriver à des situations dangereuses pour l'art et la culture. Bon, on n'a pas le temps de développer sur faire de l'art intellectuel, intellectualiste, être contre l'intellectualisme, mais pas contre l'intellect. En revanche, sur ce que dit le montage de textes de Kafka, quand on ressort du Grand Théâtre d'Oklahoma, l'une des thématiques qu'on garde fort en tête, c'est la nécessité d'artistes ou de figures singulières ou de figures portant leur singularité ou de figures sortant du rang.
Oui.
Voilà.
Moi, je crois que ce qui anime vraiment presque tous les spectacles, je pense, en plus de Kafka, c'est la volonté de d'essayer un peu. C'est-à-dire, on fait un théâtre où on n'explique pas les choses. Enfin, en tout cas, moi, je souhaite pas que les acteurs, ni nous-mêmes, expliquons qu'il y ait quelque chose, une solution. Par contre, ce qui est important, c'est que le spectateur ressorte, d'une part, avec des questions, et peut-être avec un déplacement aussi de ses petits préjugés, de ses préjugés, ou même de sa propre position de regardeur, de celui qui voit, et que ça le réveille un peu. Enfin, l'idée, c'est ça. C'est profondément politique comme idée, hein, de donner aux gens, aux spectateurs, le désir d'aller voir là où ils n'avaient pas encore été regardés. Et c'est un peu ce qu'on essaye de faire avec ces acteurs. Ces acteurs nous offrent la chance de dire que le monde et l'humanité n'en a pas fini avec les questions et la manière dont les choses peuvent être perçus et comment on peut les faire évoluer. Comme Kafka ne trouve pas de réponse parce qu'il n'y a pas d'issue, comme il dit, il ne sait pas où ça va, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il faut y aller. Donc cette manière de mettre en route le dessillement, puisque c'est vraiment essayer soi-même de comprendre quelque chose à ce qu'on vit, à notre propre condition, et du coup sans être intellectuel, c'est à mon avis la manière dont Cantor dit il faut être contre. Je pense qu'il a assez raison. Il faut d'être dans une position de déport, en tout cas, de pas aller dans le sens du mouvement. Et je pense que ça, c'est très important, effectivement.
Mais justement, pour, comme vous disiez, sortir du rang de la foule. Moi, je prendrais une phrase de Kafka qui disait « Écrire, c'est sauter en dehors de la rangée des assassins ». Et c'est Leslie Kaplan qui a commenté cette phrase dans un bouquin qui s'appelle « Les outils », qui est vraiment très très bien, où elle dit justement « Les assassins dont parle Kafka sont pas ceux auxquels on pourrait penser. En fait, les assassins dont parle Kafka sont ceux qui répètent et recommencent la mauvaise vie telle qu'elle est. Et ils assassinent quoi ? Justement, le possible. » Tout ce qui pourrait commencer, rompre, changer. Et après, elle dit, sauter justement en dehors de la rangée des assassins, ce n'est pas n'importe quoi, c'est une façon de prendre la réalité au sérieux et d'expérimenter sa non-nécessité. Ce qui ne veut pas dire que ça soit pénible. Elle dit, au contraire, penser, sauter, procure du plaisir. Et comme le dit Serge Danet à propos des cinéastes Lubitsch et Chaplin, la vraie réponse à la terreur, ce n'est pas la vertu, c'est le non-renoncement au plaisir. Donc pour aussi dire que on peut toujours, même quand, enfin, que penser, c'est ça procure du plaisir aussi. Et je trouve qu'avec les acteurs de Catalyse, cette réponse comme ça à la réalité, avec des possibles qu'on n'avait pas encore imaginés, je trouve que Catalyse répond comme ça à la réalité de façon inattendue et un peu sur des champs inconnus.
Ouais. Le Grand Théâtre d'Oklahoma se joue donc ce mercredi 13 février à Marne-la-Vallée à la Ferme du Buisson, au Quartz de Brest les 20 et 21 mars, ensuite à Besançon, Reims, Grenoble, tout ça pour la saison 2019 et peut-être ailleurs.
Oui, on espère.
Merci à tous les deux.
Merci.
Merci à vous.
Au son ce soir, c'était Stéphane Desmond à la réalisation, Charlotte Roux. Vous pouvez réécouter cette émission sur franceculture.fr et vous abonner au podcast de Par les temps qui courent. Un grand merci à Assa Traoré, Romain de Bec de Lièvre, Lou Quevauvillier, Jeanne Aléos et Marianne Chassor qui m'aident à penser et préparer cette émission. tous les soirs. Dans un instant, le journal sur France Culture. Très belle soirée. À demain.